Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy et Virginia Crespo.
Canal Académie poursuit son enquête sur Don Juan. Après le Don Juan du théâtre de Molière, après celui de Brecht, après le Don Juan de Suzanne Dillard, évoqué par Florence Delay de l'Académie française, après les Don Juan cinématographiques, en compagnie cette fois de l'immortel Jean Tullard, voici toute une réflexion à plusieurs voix autour du Don Giovanni de Mozart, le seul, le vrai, l'absolu, selon deux autres immortels, François Mauriac et Pierre-Jean Rémy, dont nous entendrons s'exprimer toute l'admiration mozartienne. D'autre part, Yves-Marie Bercé de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Daniel Piston, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, et le musicologue André Tuboeuf sont les invités de ce regard croisé sur Mozart.
Le Don Juan de Mozart ou l'opéra absolu. Peut-être que Carmen, Faust ou Aïda sont joués plus souvent sur les scènes lyriques du monde entier, mais aucune œuvre lyrique au monde n'a jamais atteint la cote d'amour, la puissance de réflexion, le caractère inépuisable et toujours renouvelé du Don Juan de Mozart. À chaque nouvelle audition, à chaque représentation, fût-elle parfois des plus médiocres, on a le sentiment de découvrir encore quelque chose. C'est ainsi que Pierre-Jean Rémy, de l'Académie française, présente son article sur Don Juan dans son livre « Le dictionnaire amoureux de l'opéra », un dictionnaire de plus de 1000 pages. Opéra, bien sûr, chanteurs, chefs d'orchestre se suivent au fil des passions, des amours et des regrets parfois de l'auteur. Et puis, il rajoute encore dans sa préface, et puis, avouons-le, aux temps héroïques, c'était aussi un moyen de piquer la curiosité des demoiselles. L'air de rien, on posait la question « Aimez-vous Mozart ?» Elle répondait toujours « Oui ».
Peu d'œuvres humaines auront inspiré à François Mauriac autant de pages échelonnées sur 30 ans que celles de Mozart. Sans doute parce que jamais, dans l'ordre de la création, l'humain ne parut avoir plus manifestement parti lié avec le surnaturel et l'ici-bas avec l'au-delà. C'est ainsi que François Solem commence la rédaction de son ouvrage paru aux éditions Michalon dans la collection Fonds perdus, Mozart et autres écrits sur la musique. François Solem, en page 60 de ce même ouvrage, rapporte ses réflexions, ses paroles de François Mauriac. « Je suis obsédé, dira Mauriac, par un des vers de Baudelaire sur le poète enfant, et l'ange qui le suit dans son pèlerinage pleure de le voir gai comme un oiseau des bois. L'oiseau des bois, l'enfant Mozart, n'a jamais interrompu son chant joyeux, même au pire moment de sa vie, lorsqu'il en était réduit à mendier quelque thaler. Ah, ces lettres humbles et suppliantes qui rappellent justement presque mot pour mot celles de Baudelaire, réduit à la même détresse. » Nous vous invitons à écouter des extraits de textes signés François Mauriac.
Don Juan, héros d'opéra bouffe, pose devant notre esprit le problème du mal. Ce drôle, charmant, ce grand seigneur canaille et irrésistible, peut-il faire autre chose en ce monde que ce qu'il y est venu faire? Une femme après une autre femme. Et il abandonne une piste pour en suivre une nouvelle. Et la grande dame pour sa servante, avec cet entêtement, cet acharnement des bêtes de proie. Il voit les larmes de ses victimes, il entend les appels à la vengeance, les malédictions. La question ne se pose pas pour lui de s'attendrir. L'amour lui est inconnu et la pitié. Il est gai d'une gaieté de fou. Sans doute n'a-t-il jamais pleuré. Ceux qui le poursuivent exigent de cet homme qu'il éprouve des sentiments dont il n'a même pas l'idée. Et la preuve, c'est lorsque le surnaturel surgit dans cette vie frénétique, au moment où la voix du commandeur éclate, la musique de Mozart me rappela une phrase de Pascal dans les Provinciales à propos du miracle de la Sainte Épine. Nous l'avons entendu, cette voix sainte et terrible. Don Juan ne bronche pas, ne dévie pas de sa ligne. Courageux, certes, téméraire, mais parce qu'il ne peut être un autre que lui-même. La plupart des hommes font les braves contre Dieu. C'est qu'ils ne croient pas en lui. Ils se moquent d'un Dieu qui pour eux n'existe pas. Mais il en est d'une autre race, celle que Don Juan représente, qui touche à chaque instant le surnaturel et qui pourtant refuse de courber le front. Même lorsque la main du commandeur l'étreint, ils disent non, encore. Ils ne connaissent rien d'autre au monde que cette possession des êtres, que ces corps tous différents et pourtant c'est toujours le même corps entre leurs bras. Se repentir, ils ne comprennent pas ce que cela signifie. Un renard ne se repent pas de s'être gorgé de sang. Même entre les mains de Dieu, même tenu en suspens au-dessus de l'abîme, Don Juan ne pourrait être sauvé que malgré lui. Il faut que la grâce fasse tous les frais de sa conversion, qu'elle le change, non de caractère, mais de nature, qu'il redevienne un autre homme, l'homme nouveau. Don Giovanni ne tremble pas, il ignore la peur. Mais tremblerait-il, il ne renoncerait pas au plaisir, à sa loi qui est le plaisir. Don Juan est bien damné d'avance parce qu'il est incapable d'amour. S'il avait aimé d'amour ses victimes, il aurait pu tout à coup aimer Dieu comme il avait aimé ses maîtresses. Mais seul le corps l'intéresse. L'amour divin ne se substitue pas à la passion de la chair. Il fait battre des cœurs qui ont battu et souffert pour la créature. Quel opéra avant Don Giovanni suscita jamais en nous des réflexions de cet ordre? Et pourtant, nous ne sommes pas dans l'abstrait. Les guitares chantent sous le balcon espagnol, on sent l'odeur des vieilles posadas, et quand Dieu apparaît au seuil du palais où Don Giovanni donne une fête ravissante, c'est sous l'apparence de trois masques sombres. Il y a là tout un théâtre en puissance, il nous semble, qui ne serait pas seulement poésie et réalité, mais aussi métaphysique et réalité. Ce n'est pas Wagner qui a ouvert une voie nouvelle. Le drame wagnérien est une impasse. Heureux l'homme qui saura dérober à Mozart son secret.
Yves-Marie Berset, le rôle de Leporello, le valet burlesque, complice, souffre-douleur, est-ce que c'est vraiment le double de Don Juan?
Son double, non, mais son compagnon, ils forment un couple. Je crois que c'est une trouvaille géniale, ils interviennent tous deux, alors ils appartiennent à une série théâtrale qui est peut-être innombrable, enfin, le couple du maître et du valet. Qui reçoit des avatars très nombreux.
Ça fait penser à Don Quichotte et Sancho Panza. Il y a toujours le faire-valoir.
Bien entendu, c'est ça, le faire-valoir. Le valet, et Don Quichotte et Sancho Panza, c'est le chevalier extravagant et son écuyer qui est lourdeau et en même temps dépositaire d'un certain bon sens populaire. De la même manière, Don Juan et son serviteur, c'est un couple qui réunit un gentilhomme criminel qui lui aussi dépasse les bornes normales, les bornes de la raison, et puis son serviteur qui est poltron, gourmand, intéressé, mais en même temps loin d'être sot. Il a une sagesse de proverbe, de bon sens, de morale élémentaire qui le fait mettre en garde son maître assez souvent. Alors, on dit, les historiens de la littérature emploient un lieu commun bien établi qui serait le couple valet-maître se transfigure au XVIIIe siècle avec Figaro. dans la mesure où le serviteur dépasse en qualité, en subtilité le maître.
Oui, ça, c'est le siècle
devient,
des Lumières.
une sorte de contestation sociale, puisque les qualités du valet contredisent, ridiculisent d'une certaine manière, enfin, ébranlent le prestige du maître. Je ne crois pas que, en fait, le tournant soit décisif, parce que on continue de trouver, au XIXe ou au XXe siècle, des couples opposés, contrastés, qui font rencontrer des valeurs sociales, des caractères très différents et en même temps inséparables, et dont l'amalgame, la rencontre inattendue et obligée en même temps, entraîne nécessairement le comique. Alors,
ça fait un peu le clown triste et le clown habituel.
Oui, on peut penser à Laurel et Hardy, on peut penser à Jeeves dans les romans de comiques de Woodhouse, ou bien encore dans les westerns, vous avez toujours un sous-officier irlandais dans le western, vous voyez, qui donne les bons conseils au capitaine, mais qui sait s'effacer quand il le faut. Vous voyez. Alors, je crois que le tournant du XVIIIe siècle, on arrive bien sûr à imaginer la postérité, on dira de légèreté éléphantesque de Brecht, mais elle n'est pas univoque. Il y a de tout temps cette valeur comique qui est dépourvue en fait de contestation sociale. C'est si vrai que Lorenzo da Ponte, le célèbre librettiste de Mozart, à peu près dans la même année, en 1786 et 1787, composait les livrets des noces de Figaro, d'après bien sûr le texte de Beaumarchais, qui lui avait un aspect de contestation sociale, et puis le livret de Don Juan, où il met en scène un Leporello qui lui est dans la longue tradition des Zanni napolitains.
Un peu burlesque.
Des personnages de la Commedia dell'arte. Alors, je crois qu'on peut dire un mot, là, pour rattacher ce valet au personnage de la Commedia dell'arte. Dans Cicognini, et le valet s'appelle Passarino. Et dans Dorimon, il s'appelle Brighella. Alors, Brighella, c'est un personnage de la comédie italienne. C'est ce qu'on appelle, il y a des personnages comiques, des Zanni, qui sont tantôt napolitains, tantôt originaires de l'Italie du Nord, et spécialement de Bergame, les Bergamasques. Parce que, dans l'idée commune, les gens des campagnes des environs de Bergame sont supposés avoir un accent ridicule. Alors, on a donc ce personnage, le Bergamasque, c'est Arlequin et Brighella, qui représentent deux formes d'accent d'Italie du Nord. Et ils ne s'opposent pas, mais enfin, ils vont de pair avec Pulcinella, qui, lui, est de tradition napolitaine. Et très certainement, Leporello est de cette famille.
Oui.
Il est... Alors, je crois qu'on peut retrouver son étymologie. Bon, Pulcinella...
Leporello, excusez-moi, ça veut dire le lièvre ?
Le petit lièvre.
Le petit lièvre.
C'est-à-dire qu'on peut le comparer à Pulcinella. Pulcinella, c'est un diminutif de Pulcino, le poussin. Le petit poulet. Et Leporello, c'est sur la lèpre, le lièvre. C'est pas le levreau, mais c'est un petit lièvre. Alors, c'est-à-dire qu'il reprend bien sûr les caractéristiques supposées du lièvre, qui est poltron.
Un peu fébrile, qui fuit un peu partout.
Voilà. C'est ça le personnage. Je crois que l'invention du mot de Leporello est tout à fait géniale, parce que là, ça, c'est l'œuvre de Da Ponte.
Et j'aurais voulu qu'on parle aussi, puisqu'on parle de Da Ponte, de Mozart et de Don Giovanni, du timbre et des tessitures des voix entre Don Juan, Leporello et le commandeur, qui sont tous les trois des basses. Comment se fait-il, évidemment ça ne peut pas être anodin, c'est un choix, comment se fait-il que le valet ait presque la même tessiture de voix que son maître ?
Alors là, c'est là qu'on retrouve l'idée que vous aviez suggérée d'un double, c'est-à-dire... Ce n'est pas un double, mais enfin, c'est une sorte de diminutif dans la mesure où, effectivement, il imite son maître. On voit qu'il cherche à rejoindre la gloire, le cynisme, sans y parvenir, bien sûr, de son maître, dont il déplore le cynisme, l'aspect criminel, mais qu'il n'ose pas rabrouer et qu'il admire, bien sûr. Alors, il l'admire, et cette admiration qui se retrouve donc, enfin, que le compositeur s'est suggéré dans la ressemblance des voix, on voit bien que on lui donne, dans le drama Giocoso de Don Giovanni, une place majeure. C'est lui qui ouvre le drame et qui a des morceaux, de longs morceaux, de très grande importance, dont le fameux catalogue.
Il catalogue è questo, delle belle che amò il padron mio. Un catalogo egli è che ho fatt'io. Osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me. In Italia 640. In Albania 231. 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna sono già 1003.
Le catalogue, je crois que c'est Ciccognini qui l'a introduit. Ciccognini qui donc compose un convive de pierre vers 1640 à Florence, il est passé à Venise ensuite. Et c'est pour consoler une des fiancées séduites et abandonnées de Don Juan qu'il lui propose un catalogue des femmes que son maître a séduites auparavant. Et ce thème est repris, Molière le cite, mais sans donner cette énumération merveilleuse qui, au fond, je crois, typiquement italienne. Parce que c'est au cours du XVIIe siècle qu'en France, en Angleterre, on se met à faire des calculs de probabilité, ce qu'on appelle l'arithmétique politique. C'est l'origine de la statistique. Mais dans la tradition administrative italienne, dès le XVe, XVIe siècle, on a des dénombrements qui ont des fonctions religieuses pour contrôler, si vous voulez, les pascalisants, ou bien édilitaires pour pouvoir, en cas de rationnement, de disette, savoir quel est le nombre de bouches à nourrir.
C'est donc une véritable énumération.
Oui,
là.
Et c'est une. Les Italiens sont les pères de la statistique politique. Et c'est une statistique politique. Les paroles donc de Leporello, c'est « Madamina, il catalogue questo delle donne ch'amò il padron mio ». Petite madame, voici le catalogue des femmes que mon maître a aimées. Et il commence alors à énumérer en Italie 640, en Turquie 91. Et puis, bien entendu, le triomphe, c'est à la fin « In Spagna son già 1003 ». En Espagne, il y en a déjà 1003.
Dont des religieuses.
Ah ben, on nous dit ensuite qu'elles sont de toute catégorie sociale, de toute apparence physique, des religieuses, pourquoi pas. C'est-à-dire que c'est l'Espagne qui paraît être une des nations les plus ferventes, qui se trouve être aussi apparemment la plus dissolue. Mais c'est une plaisanterie que les Espagnols font sur eux-mêmes, puisque c'est déjà dans les merveilleux folklores des théâtres espagnols du siècle d'or qu'on trouve ce type de référence.
Alors, ce que vous disiez tout de suite au sujet de la liste, c'est que Milletré, il aimerait bien lui aussi, Leporello peut-être en avoir Milletré aussi, mais en fait, il a quand même toujours du bon sens. Lui, il a gardé le bon sens.
Oui, et puis Don Juan est un séducteur, mais aussi un séducteur criminel, parce qu'il ne se contente pas de tromper les femmes en leur donnant l'illusion de l'amour et
les
leur promettre
après.
Le mariage et les abandonner. Mais ces femmes-là se trouvent être des sœurs, des filles, de ses amis, de personnages honorables. C'est-à-dire qu'il viole les conventions sociales de l'honneur entre hommes.
Vorrei non vorrei mi tremo un po' quello cuore.
Bonjour Daniel Piston, et merci d'être venu jusqu'à Canal Academy. Vous dirigez l'Observatoire musical français que vous avez fondé en 1998 pour expliquer l'Observatoire musical français. C'est un centre de recherche en musicologie qui est situé à Paris-Sorbonne.
Tout à fait.
Vous êtes aussi un membre correspondant de l'Académie des Beaux-Arts et auteur de nombreux ouvrages sur la musique, dont le dernier, co-écrit avec Gérard Denisot, s'intitule « La musique au temps des arts ». Dans un opéra, il faut absolument que la poésie soit la fille obéissante de la musique, disait Mozart. Pouvez-vous développer cette phrase de Mozart ?
Oui, quand il a écrit cela, je crois que c'était dans une lettre, il était jeune, hein, je crois qu'il avait 22 ans, à peine plus de 20 ans, et je pense qu'il est resté fidèle à cette définition pendant toute sa brève carrière. Effectivement, il a su, si vous voulez, sans jamais, je dirais, brutaliser le texte qui lui a été donné, il a su par le charme, parce que dans d'autres déclarations de Mozart, ce terme est aussi très important, hein, le charme de sa mélodie, le charme de sa musique, faire en sorte que la musique soit toujours au premier plan, que la musique soit toujours essentielle. Donc, effectivement, prima la musica chez Mozart. De Mozart, il est sûr que l'on parle beaucoup. C'est peut-être même le musicien dont on parle le plus. Si vous regardez, par exemple, au fichier de la Bibliothèque nationale, au département de l'audiovisuel, j'ai l'impression que ce sont les enregistrements de Mozart qui sont les plus nombreux. Mozart à la première place dans la musique classique publicitaire, Mozart à la première place dans nos opéras, donc autant dire qu'il est difficile d'appréhender l'idée qu'on se fait de Mozart aujourd'hui. Basiquement, il est quand même le représentant des petits prodiges en musique. Et on dit d'un enfant qui est doué, c'est un petit Mozart. Il est aussi là quand on parle de cette spontanéité jaillissante qui est celle de son écriture. Non qu'il écrive de façon irréfléchie, et je crois que la composition musicale de ses opéras prouverait le contraire, même s'il en a écrit beaucoup en peu d'années. Mais il y a un jaillissement d'une mélodie que tous ses contemporains ont dit qu'il portait en lui assez longtemps et qu'il ne couchait ses idées sur le papier que quand tout était clair dans son esprit. Je crois que c'est ce qui fait cette spontanéité mozartienne, cette perfection, il faut le dire, qui a séduit tant de musiciens et qui nous séduit toujours aujourd'hui. Donc j'ajouterais cette idée de perfection dans la musique. Bon, ce n'est pas un titan, ce n'est pas un Beethoven, ce qui fait que la réception souvent partage les musiciens entre les partisans du titan et celui du spontané Mozart. On l'entendrait très bien si on regarde par exemple déjà autrefois Vincent d'Indy et Debussy. Le premier tirant vers Beethoven et Debussy tirant plutôt vers Mozart. Et on comprend ainsi qu'il soit devenu l'emblème de la musique classique. C'est exactement ça. Vous avez beaucoup de publications aujourd'hui où le mot Mozart se substitue au mot musique. Ce qui est important aussi, parce que tout ça est très complexe, c'est que c'est évidemment à mettre en rapport avec ce que représente la musique dans notre société. Et je dirais la musique classique dans notre société. C'est de plus en plus difficile à apprécier parce qu'il est sûr que les musiques populaires modernes, hein, cet autre répertoire qui n'était qu'annexe lors de l'histoire de la chanson en 1850, par exemple, a parcouru en un siècle et demi un chemin tel que la musique classique maintenant passe pour un art d'élite, hein, même si elle peut encore émouvoir, je pense, qui que ce soit, c'est un art d'élite. Et la musique dans son ensemble, justement parce qu'elle est tirée par ses autres répertoires, s'affirme de plus en plus comme un art de divertissement. Et je dirais, c'est là encore que Mozart triomphe. Parce que Mozart peut être une musique de divertissement. Ce n'est pas une musique qu'on écoute la tête entre les mains. C'est une musique qu'on peut recevoir comme un art de divertissement. Ce qui fait que Mozart triomphe sur tous les tableaux. Par la profondeur et la virtuosité de son écriture du côté des spécialistes, et il est capable de séduire n'importe quel être humain et naturellement aussi les Français.
«
Bonjour André Tuboeuf et merci d'être venu jusqu'à nous, jusqu'à notre studio. Vous êtes écrivain, philosophe et critique musical. En 2009, l'Académie française vous a décerné le prix de l'essai pour votre ouvrage sur Beethoven dans la collection Classica Actes Sud. On vous a beaucoup lu dans la presse musicale, l'Opéra International, l'Avant-Scène Opéra, Harmonie et Lyrica, Diapason, Répertoire et Le Point. Parmi vos nombreux ouvrages sur les musiciens, vous avez écrit Mozart, Chemins et Chants. Pourquoi ce titre, André Tuboeuf ?
Écoutez, c'est simple, parce que Mozart est une personnalité tellement riche, tellement totale. Il y a tellement de moyens d'entrer dans Mozart et d'y séjourner en vérité. Je ne pouvais pas traiter tout. J'ai pensé que une chose était capitale chez Mozart, c'était le chant et ses diverses façons de chanter, d'où le chant et les chants. Et c'est l'acheminement extraordinaire d'un génie qui naturellement avait tout pour lui et né avec tout, en qui l'acquis lui-même d'emblée a paru inné et pourtant chez qui tout a été acheminement profond, sans tâtonnement, avec le caractère direct et en apparence immédiat qui est celui du génie. Et ce chemin n'a duré, comme on le sait, que 35 ans, ce qui est extrêmement peu, mais parce qu'il était depuis le début d'une fécondité et d'une richesse extraordinaire, et surtout que les moindres de ses essais semblaient avoir trouvé d'emblée leur forme définitive, eh bien, il y a un chemin royal qui est celui de Mozart et du seul Mozart, d'où le titre.
Vous avez fait une très jolie comparaison. En parlant de Beethoven, vous avez dit qu'on pouvait penser à une forge de titans, mais pour Mozart, c'était la voix des anges.
Oui, la voix des anges. On est toujours tenté de parler de voix des anges quand il y a quelque chose qui semble descendre du ciel. Et probablement, le génie chez Mozart était tellement intuitif, tout en étant acquis par cette éducation prodigieuse, que ça peut sembler les anges qui parlent à travers lui. Mais ça nous ferait oublier quand même quelque chose qui me paraît essentiel, c'est-à-dire le travail forcené, qui était forcément un travail forcené quand on pense à la quantité d'œuvres et d'œuvres longues, compliquées, complexes, qu'il a fallu qu'il mette sur le papier, ce qui est bien autre chose que de concevoir tout cela dans sa tête comme si cela descendait du ciel. Je ne sais pas du tout ce qu'il y avait d'authentique ou de plausible dans le film Amadeus. Mais en tout cas, il nous a suggéré palpablement quelque chose, c'est-à-dire cette idée de quelque chose qui, comme dans des casiers d'avance établis, une partition en vérité dont les portées sont déjà tracées, tout mentalement viendrait s'écrire à une vitesse qui peut faire penser à l'immédiateté. Bon. Mais, comme nous le savons, après cela, il y a, comme Mozart l'écrivait de Munich à son père, au moment où Idoménée se préparait pour vraiment la course finale, comme il le disait, « Je suis devenu mon propre troisième acte, et maintenant c'est ma main qui devient mon troisième acte, c'est-à-dire que tout ce que j'avais dans la tête et qui était venu si facilement, eh bien tout cela doit passer par ma main et par ma seule main. » Eh bien, c'est à cela qu'il s'est épuisé, c'est de cela probablement qu'il est mort. Mais il faut se dire que le naturel confondant de la forme, l'évidence qu'il y a pratiquement partout dans Mozart, dans sa musique, nous cache le fait matériel et incontournable que tout cela, que peut-être les anges lui ont mis dans la tête, c'est lui-même qui a dû le mettre sur le papier.
Donc Mozart est en fait un travailleur.
Un tâcheron. Il n'avait pas de secrétaire, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'ordinateur. Ce qu'il avait dans sa tête, ce qu'il avait computé dans sa tête avec la plus grande aisance, il a fallu que portée par portée, trait par trait, c'est-à-dire patte de mouche par patte de mouche, avec les bémols et les dièses, et les doubles croches et les soupirs, ils le mettent sur le papier. Allez-y voir.
Et pourquoi s'attacher alors à ce personnage, à ce mythe du Don Juan ?
il fournit à Mozart, après Figaro, dont les protagonistes précisément étaient gens du commun, un grand personnage, aristocrate, noble, libre, qui peut revêtir l'habit du libre penseur et à qui enseigne tout est permis, ce qui ne serait évidemment pas permis à un Figaro quelconque. Donc c'est beaucoup de commodité pour Mozart et c'est un sujet extraordinairement tentant.
Pourquoi Pierre-Jean Rémy de l'Académie française, que vous connaissez bien André Tuboeuf, a pu dire un jour que Don Giovanni avait ce caractère inépuisable ? C'est son qualificatif.
Tout opéra de Mozart, la plus petite sonate de Mozart a un caractère inépuisable. Donc je ne crois pas que Don Giovanni soit privilégié à cet égard-là. Évidemment, c'est beaucoup plus long. Comme il y a un livret, comme il y a des personnages, c'est beaucoup plus touffu et beaucoup plus pittoresque. Mais c'est la musique de Mozart en soi-même qui est inépuisable au sens où on ne s'en lasse jamais et au sens où elle éveille et peut susciter à chaque fois en nous, et peut-être précisément par l'effet de la répétition, une oreille plus attentive, plus profonde et quelque chose qui va davantage à l'essentiel. Mais je ne crois pas du tout que Don Giovanni soit privilégié à cet égard.
Alors parlez-nous de l'harmonie entre le texte, le livret et la musique.
Elle ne saurait exister entièrement en opéra, mais bien entendu, l'entente entre Da Ponte et Mozart a été exceptionnelle. D'abord parce que Mozart était un grand esprit littéraire et cultivé, et que par conséquent, les mots, les situations sur lesquelles il s'accordait, c'est très certainement avec Da Ponte dans ce qui a été une véritable collaboration, ont été évidemment d'une autre portée, d'une autre vérité que tout ce qu'on avait pu voir précédemment et de beaucoup de ce qu'on verra par la suite en travail d'opéra. Mais cette correspondance est très importante parce que chez Mozart, le chant ressemble toujours à la fête au sentiment, à l'émotion qui est supposée le faire naître. Et chez Da Ponte, la fête précisément est mise en place de telle manière que ce soit ce chant précisément qui sorte dans cette couleur et avec ce sentiment particulier, cette individualité particulière, et c'est la raison pour laquelle les distorsions auxquelles sont soumis actuellement les opéras de Mozart en scène et au théâtre, dans l'espoir de renouveler la vision ou de faire dire autre chose au personnage que ce qu'il chante en effet, sont une chose horrible, parce que le génie de Mozart a été effectivement d'inventer et de recréer la vérité expressive du sentiment telle qu'elle peut se déployer dans le chant, et dans un chant qui, par-dessus le marché, est beau. Et toucher à cela est probablement un sacrilège plus grand que celui que Don Giovanni pouvait croire perpétrer en contrecarrant les fiançailles de Zerlin avec Mazzetto ou celles d'Anna avec Ottavio.
Alors, vous parlez d'affetto, vous parlez de sentiments. La dimension spirituelle, Daniel Piston, comment Mozart réussit-il à traduire dans sa musique d'opéra cette dimension spirituelle ?
C'est une question difficile. Difficile parce que notre époque n'entend sans doute pas par cette expression ce qu'on comprenait à l'époque de Mozart. Penser que Don Giovanni est un dramma giocoso, hein, et que c'est cette alliance justement entre le tragique et le bouffe qui a contribué à faire son succès, notamment au XIXe siècle, et qui a suscité l'étonnement du XXe siècle, il faut le dire. Alors, le spirituel, c'est beaucoup pour nous le sacré aujourd'hui, c'est-à-dire c'est ce qui nous dépasse. Et il est sûr que l'arrivée du commandeur au deuxième acte est pour beaucoup, vu de très loin, dans cette dimension spirituelle. Combien d'écrivains, combien de compositeurs ont dit avoir été frappés dans cet opéra d'abord par ce passage, l'arrivée du commandeur. Puis bien sûr, la négation répétée lorsqu'on lui dit « il faut te repentir, repens-toi », non, non. Et puis l'engloutissement éternel et surtout ce cri dont on dit, dont on croit toujours aujourd'hui que c'est le premier grand cri de l'opéra. Et un cri d'homme, pas un cri de femme, parce que les femmes crient beaucoup dans l'opéra. Mais là, le cri donc, avec lequel Don Giovanni s'engloutit, je crois, participe de ce climat qui fait que l'ouvrage reste plein d'ambiguïté. André Tuboeuf disait « Mozart est un grand philosophe, sûrement parce qu'il a su saisir la vie, je crois, à pleine main. Mais c'est aussi un grand enfant. Il est resté un grand enfant et je crois que c'est cette alliance qui fait qu'il saisit à pleine main quelque chose qui nous dépasse tout à fait et en même temps le visage de Leporello qui est peut-être le double de Don Giovanni, à moins que, comme le disait Autexier, Don Giovanni ne soit que le double de Leporello.
Questa è buona, lasciala cercare. O statua gentilissima del gran commendatore, padron, mi trema il cuore, non posso terminare. Finiscila, o nel petto, ti metto questo acciar, ti piccio, ti capriccio.
Le sacré et la dimension spirituelle dans l'opéra Don Giovanni, ce n'est pas la présence d'un dieu qui, après tout, n'est jamais nommé tel quel. Donc, qui le commandeur représente ? Il représente simplement quelque chose qui sort de la mort, ou de ce que Don Giovanni peut croire à la mort, qu'il lui a infligé. C'est une apparition sortie d'un cimetière. Je ne vois pas, je n'entends pas Dieu et je n'entends pas prononcer le nom de Dieu. En revanche, très certainement, Elvire finira au couvent. Très certainement, Elvire sent, elle, le chemin de damnation sur lequel Don Giovanni s'engage, à tombeau ouvert, on peut le dire. Très certainement, il arrive à Elvire la seule mutation profonde qui existe dans tous les personnages de cet opéra prodigieux. Et très certainement, dans le récitatif que Mozart a ajouté à Elvire pour les représentations de Vienne, dans In quali eccessi, il y a en 2 minutes une succession d'affetti et une ouverture progressive des abîmes du cœur humain. Le seuil du sacré, le seuil du définitif qui se rapproche. Ça ne va pas être de la part de Don Giovanni qu'elle aime et à qui elle pardonne quand même. Une transgression de plus, ça va être le dernier pas, celui qui va l'engloutir. Et néanmoins, passionnément, elle prend le parti de celui qu'elle aime toujours. Il y a là, en 2 minutes, une série de modulations, une série de, j'allais dire, de presque silence, une série d'interruptions, une série de soupirs qui sont à la fois des soupirs musicaux, bien entendu, et des soupirs humains. Il y a un approfondissement des abîmes et des intermittences et des ambivalences du cœur qui, en même pas 2 minutes, fait que le personnage d'Elvire, lui, atteint absolument à la dimension du spirituel, et que la modernité et le caractère absolument précurseur et voyant très loin de Don Giovanni, et cette fois-ci par le génie de Mozart et non pas simplement par celui de Da Ponte, tout d'un coup assume quelque chose de vertigineux. Don Giovanni flirte effectivement, comme Mauriac le suggère, flirte avec une idée libertaire de la liberté, il flirte avec le libertinage au sens d'un siècle déjà très en avance sur celui où on le situe historiquement. Ce n'est pas par hasard que c'est en Espagne qu'il va inscrire 1003 femmes à son palmarès. Et ce n'est pas parce qu'en Espagne, les femmes sont plus faciles qu'ailleurs, c'est au contraire parce qu'elles sont davantage défendues par les vertus et par les mœurs. Et qu'en conséquence, le pari, le challenge, le défi exactement, sont plus importants. L'idée de la chasse est présente. La possibilité de la prise est douteuse. Le fait est que des trois personnes sur lesquelles Don Giovanni a l'air de fondre comme un épervier en 2 heures de Don Juan, mon Dieu, il ne réussit à en attraper aucune. Elle lui échappe parfaitement. Mais visiblement, c'est cette course folle en avant qui l'intéresse et pas autre chose. Et j'ajoute que le fait qu'il les arrache en quelque sorte à un sacrement qu'elles vont contracter. L'une, le couvent, la deuxième, les fiançailles, la troisième, le mariage, tout de suite. Et le commandeur lui-même, profané et insulté dans son cimetière même, ce qui est provoqué non pas le dieu unique auquel Mauriac suppose qu'il croit au moins implicitement, mais enfin tous les dieux de toutes les mythologies possibles. Donc il y a en lui une dimension de provocateur, si ce n'est de profanateur. Et dans profanateur, bien entendu, on lit exactement la racine du sacré qui est transgressée, qui est profanée et qui est moquée. Et le personnage en qui elle est le plus moquée, c'est Elvire, qui est l'objet de cette comédie infâme du trio du balcon, au moment même où, étant seule dans la nuit, elle laisse s'effuser de son propre cœur, ce qui est une des plus belles plaintes de Mozart, qu'en plus, Don Giovanni va avoir le culot de lui reprendre pour ainsi dire tel quel, pour en faire ensuite la mélodie de sa sérénade, ce qui est une simple infamie. Voilà, il profane donc tous azimuts notre Don Giovanni.
Nous avons relevé un texte de Mozart à son père le 13 octobre 1781. Et évidemment, ça corrobore ce que vous venez de dire, madame. Un opéra plaira d'autant plus que le plan de la pièce est bien fait, les paroles étant écrites uniquement en vue de la musique et non pour satisfaire ici ou là une pauvre rime qui, pourtant, quelle qu'elle soit, ne contribue en rien au prix d'une représentation théâtrale, mais au contraire lui fait du tort. Ce qu'il y a de mieux est la rencontre d'un bon compositeur qui comprend le théâtre et qui est lui-même capable de donner des indications, et d'un poète intelligent, ce qui est un véritable phénix. Et Da Ponte était son poète intelligent.
Tout à fait, vous avez tout dit, ou Mozart a tout dit.
Mozart a tout dit.